Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission mensuelle Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs vont venir sonder l'intérieur et l'extérieur de vos vies en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Je me couche toujours très tôt et fourbu, cependant on ne relève aucun travail fatigant dans ma journée. Possible qu'on ne relève rien, mais moi ce qui m'étonne, c'est que je puisse tenir bon jusqu'au soir, et que je ne sois pas obligé d'aller me coucher dès les 4 heures de l'après-midi. Ce qui me fatigue ainsi, ce sont mes interventions continuelles. J'ai déjà dit que dans la rue, je me battais avec tout le monde. Je gifle le linge, je prends les seins aux femmes, et me servant de mon pied, comme d'un tentacule, je mets la panique dans les voitures du métropolitain. Quant aux livres, ils me harassent par-dessus tout. Je ne laisse pas un mot dans son sens ni même dans sa forme. Je l'attrape, et après quelques efforts, je le déracine et le détourne définitivement du troupeau de l'auteur. Dans un chapitre, vous avez tout de suite des milliers de phrases, et il faut que je les sabote toutes. Cela m'est nécessaire. Parfois, certains mots restent comme des tours. Je dois m'y prendre à plusieurs reprises, et, déjà bien avant, dans mes dévastations, tout à coup, au détour d'une idée, je revois cette tour. Je ne l'avais donc pas assez abattue. Je dois revenir en arrière et lui trouver son poison, et je passe ainsi un temps interminable. Et le livre lu en entier, je me lamente, car je n'ai rien compris. Naturellement. N'ai pu me grossir de rien. Je reste maigre et sec. Je pensais, n'est-ce pas, quand j'aurai tout détruit, j'aurai de l'équilibre possible. Mais cela tarde. Cela tarde bien. Alors, je joue avec les sons. Quelle étrange chose au début. Ce courant qui se révèle, cet inattendu liquide, ce passage porteur en soi, toujours et qui était. On ne reconnaît plus d'entourage, le dur en est parti. On a cessé de se heurter aux choses. On devient capitaine d'un fleuve. On est pris d'une étrange et dangereuse propension au bon sentiment. Tout est pente. Les moyens déjà sont paradis. On ne trouve pas les freins, ou pas aussi vite qu'on ne trouve le merveilleux. On met en circulation une monnaie d'eau. Comme une cloche sonnait un malheur, une note n'écoutant qu'elle-même, une note à travers tout. une note basse, comme un coup de pied dans le ventre, une note âgée, une note comme une minute qui aurait à percer un siècle, une note tenue à travers le discord des voix, une note comme un avertissement de mort, une note, 7 heures durant, m'avertit. Dans ma musique, il y a beaucoup de silence. Il y a surtout du silence. Il y a du silence avant tout qui doit prendre place. Le silence est ma voix, mon ombre, ma clé. Signe sans m'épuiser qui puise en moi. Il s'étend, il s'étale, il me boit, il me consomme. Ma grande sensus se couche en moi. Quand rien ne vient, il vient toujours du temps. Du temps, sans haut ni bas. Du temps, sur moi, avec moi, en moi, par moi, passant ses arches en moi qui me ronge et attend. Le temps, je m'ausculte avec le temps, je me tâte, je me frappe avec le temps, je me séduis, je m'irrite, je me trame, je me soulève, je me transporte, je me frappe avec le temps. Quelle étrange chose au début. Oiseau pique, pique, pique. Qu'est-ce que je fais? J'appelle, j'appelle, j'appelle. Je ne sais qui j'appelle. Qui j'appelle ne sait pas. J'appelle quelqu'un de faible, quelqu'un de brisé, quelqu'un de fier, que rien n'a pu briser. J'appelle. J'appelle quelqu'un de là-bas, quelqu'un au loin perdu, quelqu'un d'un autre monde. C'était donc tout mon songe, ma solidité? J'appelle, devant cet instrument si clair. Ce n'est pas comme ce serait avec ma voix sourde, devant cet instrument chantant, qui ne me juge pas, qui ne m'observe pas. Perdant toute honte, j'appelle. J'appelle, j'appelle du fond de la tombe de mon enfance, qui boude et se contracte encore, du fond de mon désert présent. J'appelle, j'appelle. L'appel m'étonne moi-même. Quoi que ce soit tard, j'appelle. Pour crever mon plafond, sans doute, surtout j'appelle. J'appelle. Je joue avec les sons. On a cessé de se heurter aux choses et on devient pour toujours le grand capitaine d'un fleuve. Je joue avec les sons.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe où je meurs. De ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe, un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime, de lancer la brume en baiser et de ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet. Où lui c'est le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi le chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des communs de nécropole. Je suis sûr que la vie est là, avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consume au l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le matin mouillé de mousse revient. Fille verte des fjords revient, violon des violonnades dans le port, fanfare les corps pour le retour des camarades au parfum rare des salants dans le poivre feu des gerçures. Quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurant sous les sunlight cassés liquides, jour de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais se compressant quand on pressant l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc copain, où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent. Cette rumeur me suit longtemps comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage rousse, ça vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue. Aux musiques mortes, c'est fini la mer, c'est fini. Sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle.
Une fois, le roi décide d'appeler les gens qui travaillaient pour lui, mais il n'apprit pas la tortue parce qu'ils sont fâchés. La tortue dit, « Oh, le roi ne veut pas de moi comme un ouvrier. Eh bien, il va voir. Elle va chercher une sitar. Il va sur le chemin. Là, elle se met à jouer dans la sitar. Quand les premiers ouvriers pour aller travailler pour le roi, la tortue se met à chanter, où vas-tu, je vais planter pour le roi. Si tu préfères travailler pour le roi, va travailler pour le roi. Mais si tu préfères danser, danse. Et aussitôt, le premier ouvrier se met à danser et oublier d'aller travailler et dans. L'autre ouvrier du roi passe. La tortue reprend la sitar. Ils se mettent à jouer et à chanter. Où vas-tu? Où vas-tu? Je vais planter pour le roi. Si tu préfères travailler pour le roi, va travailler pour le roi. Mais si tu préfères danser, danse. Aussitôt, non sans mettre à danser gaiement. Et il oubliait d'aller travailler. Et de deux, la tortue dure dans la cité pour tous ceux qui vont travailler au champ. Et tous, les uns après les autres, ils s'en mettent à danser et oublient d'aller travailler. À midi, le roi n'a vu pas aucun ouvrier arriver. Il les attend toujours. Ils s'en disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Il va voir ce qui se passe. Quand il arrive sur le chemin, il voit la tortue avec la sitar et s'en met à chanter. Roi, où vas-tu? Roi, où vas-tu? Je cherche mes ouvriers. Si tu préfères chercher tes ouvriers, cherche tes ouvriers. Mais si tu préfères danser, danse. Le roi s'en met à danser et voilà ce qu'a fait la tortue. Oh, roi, à tes ouvriers, aucun n'est allé travailler. Tous ont préféré danser et ils ont continué à danser jusqu'à au soir. La tortue avait montré au roi qui était le plus fort.
Yesterday. mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Oublier. Deux hommes dans la rue. L'un est assis par terre, l'autre marche. Il s'arrête.
Bonjour, monsieur. Ça va ? Pas trop froid ? Prenez soin de vous. Je vous en prie. Vous savez, je ne voudrais pas vous dire ce que vous avez à faire. Mais n'oubliez pas, monsieur. N'oubliez pas. La vie mérite d'être vécue. Même si pour vous, elle ne semble pas bien facile. Il faut y croire, monsieur. Y croire, y croire. N'oubliez pas, monsieur. Je vous en prie. Ne l'oubliez pas.
L'autre relève la tête.
Tout ce que je sais, monsieur, c'est que je suis là, assis, dans cette rue froide, oubliée. Il y a des mots, monsieur, il y a des mots, monsieur, voyez-vous. Tenez, vous me demandez de ne pas oublier, oublier. Je vais vous parler, monsieur, d'un autre mot, amnésique. Amnésique, amnésique, voyez-vous, monsieur. J'aime ce mot, amnésique, 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 amnésique. J'aime ce mot. J'aurais pu tout autant vous citer Pipistrelle, monsieur, mais vous m'avez parlé d'oubli. C'est une musique, monsieur, avant d'être un mot. Vous entendez une musique, amnésique. Amnésique, 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 répétez comme ça plusieurs fois, monsieur. Ça fait une drôle de musique, ne trouvez-vous pas? Amnésique, une drôle de musique, qui se cache derrière un éternuement, vous entendez? Un éternuement. Voyez-vous, monsieur, c'est comme si après une merveilleuse journée à marcher sur l'une de ces immenses plages, au mois de décembre, au Danemark ou ailleurs, la lumière était magique, vous auriez espéré voir un phoque. Un phoque ? Oui, monsieur, un phoque. Seal. Seal en anglais, monsieur, seal. Et même si vous en aviez seulement trouvé un, désespérément échoué, pareil à une vieille barcasse et désespérément mort. Alors, vous auriez pu rentrer au bercail, monsieur, heureux par cette inoubliable journée. A posteriori, monsieur, a posteriori. Alors, monsieur, vous auriez dégusté un alcool local fier, vous auriez lâché quelques skeuts, quelques pets, et vous auriez réalisé petit à petit, monsieur, un rhume naissant. Peut-être que, pareil à un enfant, en partance pour la fête foraine, aurait oublié ses chaussures, monsieur. Pareil à un amoureux trop pressé de rejoindre sa belle, aurait oublié le bouquet de fleurs. C'est mal parti, monsieur, vous en conviendrez. Tenez, pareil à un plombier, monsieur, un plombier fatigué, aurait oublié ses outils. Est-ce pour autant une fuite, monsieur, une fuite? Je vous le demande. Pareil à un apprenti pâtissier. Quoique très motivé, monsieur aurait oublié sa tarte au four. Paf, grillé. Pareil à un candidat au suicide, monsieur. Voyons, pas très convaincu, aurait oublié ses neuroleptiques, sa corde, de payer sa facture de gaz, n'est-ce pas? Pas très organisé. Nous parlons donc d'oubli. Et vous, comme à la plage, vous étiez prêt. pressé, monsieur, de sentir les embruns sur votre visage. Encore enfantin, monsieur, vous étiez trop optimiste. Nous sommes au Danemark, en hiver. Et, voyant un rayon de soleil, vous aviez oublié votre coupe-vent, votre petite laine, votre petite laine. Voilà enrhumé, monsieur. Enrhumé, oui. Et vous me parlez d'oubli, monsieur. De ne pas oublier. Amnésique, voyez-vous. J'y reviens. C'est un mot lâché après un éternuement. Vous étiez enrhumé, souvenez-vous. Et vous sentiez un mince filet de morvelle bien liquide. S'échouer pareil à notre phoque de tout à l'heure, s'échouer sur votre lèvre supérieure, y faire une escale, monsieur, y faire escale, un filet de morvelle, monsieur, vous entendez, amnésique, c'est un mot prononcé, enrhumé, oui, enrhumé de la mémoire. Que me dites-vous? Vous aviez oublié vos mouchoirs. Aïe, aïe, aïe. Amnésique. J'y reviens. C'est donc un mot prononcé. Enrhumé, j'insiste. Enrhumé de la mémoire, monsieur. Vous saisissez? C'est pourquoi je trouve amnésique. Un mot... Comment pourrais-je dire? Un mot marrant, oui, oui, c'est ça. Un mot marrant, monsieur. Marrant, même si un rhume carabiné ne l'est pas vraiment. Surtout quand il s'accompagne de morvelle, n'est-ce pas? Et surtout, voyons, si on est une cantatrice, ce qui ne semble pas être votre cas, monsieur, vous qui me regardez du haut de mon trottoir. Donc une cantatrice de renommée internationale, qui, à deux jours d'un grand récital, monsieur, se trouverait enrhumée. Elle aurait oublié de dormir en pyjama la semaine précédente. Amnésique, amnésique, amnésique donc. Elle aurait oublié son récital. Elle aurait oublié son pyjama. Et vous, avec votre morvelle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comprends pas. Alors vous répétez, il répète, et ça a tendance à vous énerver. D'autant plus que vous aviez oublié vos mouchoirs en papier. Amnésique, amnésique, un atchoum du cerveau, peut-être même du cervelet d'ailleurs. Alors, pour oublier, vous rentrez, vous vous faites un bon grog, vous voyez, monsieur, là, vous n'oubliez pas une bonne louche de rhum qui vous réconcilie avec votre rhume. D'où la réflexion, je bois un grog, du rhum, pour oublier que j'ai un rhume. Oh, je sais, je sais. C'est facile, très facile. Mais c'est un bon moyen de prendre soin de vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous me disiez tout à l'heure? Prenez soin de vous, je vous en prie. Amnésique. Que ce mot est beau. Amnésique. Que ce mot est beau. Sa sonorité est poétique. Poétique, monsieur. Amnésique. Mais il ne s'agirait pas d'oublier. Celle ou celui qui prononce amnésique, peut-être affublé d'un bec de lièvre. Et si on peut s'extasier de cette douce sonorité en contemplant poétiquement la photo d'une cascade figée sur un calendrier périmé d'un restaurant asiatique, là, l'origine d'amnésique est un petit peu triste, voyez-vous, monsieur. Triste, n'oublions pas. Mais les progrès de la médecine font qu'aujourd'hui, on rencontre moins de becs de lièvre comme de becs de gaz dans les rues. Constatez par vous-même, monsieur, constatez, regardez. Oh, c'est peut-être égoïste, mais amnésique, j'adore. Amnésique, j'adore ce mot, monsieur, ce mot. Mais où en étais-je? Aurais-je oublié? Ah oui. Amnésique. Basiquement, ça parle de mémoire, n'est-ce pas, monsieur? Oubliez. N'oubliez pas, monsieur, n'oubliez pas. Oh, qu'il est beau, noble le conseil que vous m'avez donné il y a 10 minutes. Oubliez, nous l'oublions pas. Ça a du bon et du mauvais. Regardez. Si toutes les femmes n'oubliaient pas les horribles contractions qui ont précédé la délivrance, et si elles n'oubliaient pas le visage fripé et sanguinolent de leur marmot, monsieur, oh, qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il ressemble à son papa? C'est tout votre portée. Ah, désolé, moi je suis l'anesthésiste. Amnésique. Mais nous l'oublions pas, monsieur. Il y a aussi des anesthésistes papa. Et beaucoup d'enfants adultérins, fripés ou pas d'ailleurs. Mais cela est un autre sujet. Oui, monsieur, si le souvenir des parturientes restait bloqué sur la douleur, la violence des contractions, souvenez-vous, poussez, soufflez, madame, poussez. Le monde ne serait pas ce qu'il est. Amnésique, oui, amnésique. La fermeture des écoles s'accélérerait davantage. Il y aurait de moins en moins de couches culottes souillées, oubliées, abandonnées sur les aires de pique-nique de nos nationales. Pour les aires d'autoroute, c'est différent. Il y a bien des poubelles, mais elles sont bien souvent archi-pleines. Oubliées, vous êtes d'accord? Car on a oublié de les vider. Alors, n'oublions pas l'oubli. Si les mères n'oubliaient pas les contractions, on pourrait lire tranquille et dans le calme sur la plage. Votre plage, d'ailleurs, monsieur, en été, au Danemark. On lirait donc sans entendre les cris d'un sale bambin. « Maman, il y a du sable sur mon goûter !» La mère est mensongère. « Ce n'est rien, mon chéri. Oublie, ce n'est rien, c'est normal. Ton gâteau, c'est un sablé. » Oui, monsieur, si les mères postpartum pouvaient ne pas oublier les contractions, leur contraction, monsieur, leur contraction. Cela résoudrait les problèmes inquiétants de l'augmentation de la population mondiale, les problèmes inquiétants du réchauffement climatique, les problèmes de la faim dans le monde, la peur de la faim du monde. Mais il y aurait un revers à la médaille du baptême des rejetons, l'extinction de l'espèce humaine. Vous êtes bien d'accord, monsieur? Oh, ceci dit, ça ferait des vacances aux forêts, aux océans, à la banquise fondante, aux palombes qui se font zigouiller pendant leur voyage, aux crocodiles et autres reptiles qui se font maroquiner. Amnésique, j'y reviens, une douce musique. Alors, quant à la réponse à la question « Pourquoi tu bois ?»« Je bois pour oublier. »« Monsieur, je m'élève en faux. »« Non, je bois parce que je n'ai pas oublié où j'ai mis la bouteille. »« Parce que je n'ai pas oublié où se trouve le bistrot. » »« Il n'y a pas d'alcoolique amnésique, monsieur. » »« Non, il n'y a pas d'alcoolique amnésique et je n'ai pas peur de l'affirmer. » Un remède à l'alcoolisme serait peut-être de lobotomiser la partie droite du cerveau de l'alcoolique. encore bien même fût-il gaucher. La partie du cerveau qui a trait à la mémoire, cela résoudrait bien des problèmes de santé publique. Cela résoudrait en partie, monsieur, le déficit de la sécu. Mais cela énerverait bien les patrons de bar, nous sommes d'accord. On le voit bien, tenter de résoudre les problèmes de santé de notre société est tâche difficile. Aussi, pourrions-nous ici, monsieur, remercier et saluer nos gouvernements successifs qui disent s'évertuer à la tâche, si nous ne savions qu'ils sont surtout animés à ne pas oublier la santé de leur porte-monnaie, monsieur. Eh oui, leur porte-monnaie. Comme quoi, l'absence de mémoire a du bon. Regardez, l'amoureux est conduit. S'évertuerait-il encore à vouloir séduire d'autres femmes? Espérerait-il encore et encore un nouvel amour s'il n'avait pas oublié? Mais la mémoire est aussi sélective. Et là, ça se complique. Notre amoureux est conduit à oublier. Réfléchissez, monsieur. Réfléchissez donc un instant, je vous en conjure. Je vous en prie. Avez-vous oublié? L'amoureux est conduit n'a pas oublié. L'ivresse du coït. Accessoirement, celle des sentiments. Autre chose, monsieur, le dentiste. Retournerions-nous chez le dentiste si nous n'avions pas oublié le retard du médecin, la médiocrité des revues de salle d'attente et l'aspirateur que l'assistante nous fourre frénétiquement dans la bouche. Autre chose, oublier ses clés de voiture. Ça semble anodin. Ce n'est pas mortel. Ce qui est mortel, en revanche, c'est s'entendre dire « Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. » Et les culs de jatte, monsieur, les culs de jatte, sont-ils dispensés d'oubli? Les culs de jatte, monsieur, les culs de jatte, je vous le demande. Oublier ses clés de voiture, donc, ça énerve. Mais oublier où on l'a garé après en avoir retrouvé les clés, ça énerve encore plus, vous êtes bien d'accord, monsieur. L'homme est paradoxal et jamais content, on doit le reconnaître. Un autre exemple, tenez. L'amoureux est conduit, on y revient. On ne l'a pas oublié celui-là, écoutez-le. J'aimerais l'oublier. Son ami est là, il en rajoute. N'oublie pas que tu as aussi vécu de bons moments. N'oublie pas, vous voyez, monsieur, car le lendemain, un coup de fil du même ami, il en rajoute. Allez, oublie, te faut maintenant oublier, allez de l'avant, oublier le temps des malentendus et blablabla, et carpe diem et blablabla. Alors, oublier ou ne pas oublier? Regardez, monsieur, je change de domaine, mais pas de sujet. Oubliez de se brosser les dents, ce n'est pas mortel. Mais ça peut l'être pour votre interlocuteur si vous avez mangé un aïoli. Eh oui, monsieur, un aïoli. Oubliez d'envoyer sa feuille d'impôt. Vous en conviendrez, monsieur, ce n'est pas mortel. Mais c'est énervant quand, plus tard, Marianne vous écrit car elle ne vous a pas oublié. Ce n'est pas énervant, ceci dit, si vous avez une phobie administrative. Mais monsieur, on est d'accord, ce n'est pas donné à tout le monde. Oublier de descendre la poubelle, ce n'est pas mortel. D'accord, mais ça fait mal à la masculinité. Certains psys concernant l'oubli se croient intéressant, à défaut d'être original, parle pour l'oubli d'actes manqués. Quelle ineptie! Mais quelle ineptie! Bien sûr, sûr que j'ai volontairement oublié mon rendez-vous au Pôle emploi, où on va me proposer un travail de merde pour un salaire de merde. Bien sûr que j'ai volontairement oublié mon rendez-vous chez le neurologue, qui va m'annoncer que j'ai une tumeur au cerveau. Oublié un rendez-vous pour passer un scanner, pour une suspicion d'Alzheimer. Bien vu, réussi, monsieur, bien réussi. Amnésique, amnésique, amnésique. Regardez. J'oublie l'heure de départ de mon train, qui doit m'amener à Plouarmenec. Une petite parenthèse, comme amnésique d'ailleurs, Plouarmenec, 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 j'adore ce mot, mais ce n'est pas le propos. En soi, Plouarmenec, même avec le rhume, convenons-en, monsieur, Plouarmenec, en soi, le lieu, c'est nul. Se retrouver à Plouarmenec, pour des vacances de rêve, sous une pluie battante, un vent inhumain, puisqu'il décorne les bœufs, et manger du poisson décongelé dans la salle à manger, obscure, au mur de granit d'une chambre d'hôte. Une chambre d'hôte, monsieur, sans la wifi, monsieur, sans la wifi. Mais comment peut-on oublier la wifi, monsieur? Oublier la wifi, je vous le demande, l'oublier. Oublions donc Plouarmenec et le poisson congelé. Oublier de souhaiter la fête à sa dulcinée. Ce n'est pas mortel, bien d'accord, monsieur. Mais essayez de se rattraper avec la phrase débile que elle n'a pas oubliée. « Mais chérie, c'est tous les jours ta fête. » Il ne faut pas alors s'étonner qu'elle vous dise « Pour la partie de Pouloup Pouloup, ce soir, mon chéri, tu peux oublier. » Oh, les femmes sont ingrates, je ne vous le fais pas dire, pour y avoir oublié. Oublier, donc, monsieur, fait mal à la libido. Et dans ce cas aussi, à la recette du floriste du coin. La mémoire, l'oubli, il y aurait tellement de choses à dire, n'est-ce pas, monsieur? Ce qui semble sûr, monsieur, l'oubli, Parkinson, est le propre de l'homme. Écoutez la musique, monsieur. Amnésique, 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 amnésique. L'oubli est le propre de l'homme, et non point le rire, monsieur. Oubliez le rire, monsieur, oubliez. Vous suivez, monsieur? J'oublie donc je suis. Vous suivez, monsieur? Très bien. A-t-on déjà vu un setter irlandais oublier ses clés de voiture, monsieur? Non, non, absolument pas. A-t-on déjà vu un cerf, monsieur, oublié de copuler en période de brame, monsieur? Non, non, absolument pas. La biche, d'ailleurs, ne dira jamais « oublie, j'ai la migraine ». A-t-on déjà vu, monsieur, une iguane à queue rousse oublier son parapluie en période de mousson? Non, non, monsieur, absolument pas. A-t-on déjà vu, monsieur, une girafe, monsieur, oublier son rendez-vous chez le gynécologue? Non, non, absolument pas. Un perroquet gris du Gabon, monsieur, ou vert du Japon, oublierait-il son rendez-vous chez le psy? Jaco, Jaco, qui était-ce ce Jaco dans votre enfance? Que voulez-vous dire? Non, monsieur, non, absolument pas. J'oublie dont je suis, monsieur. Typiquement, uniquement humain, je vous le dis. Je parle, monsieur. Mais avant que nous nous quittions, je vous invite, monsieur, à ne pas oublier. Non, n'oubliez pas, monsieur. N'oubliez pas de me laisser une petite pièce. Vous voyez, monsieur, je n'oublie pas, je ne l'oublie pas.
dit rien, de rien on oublie, rien du tout, on oublie rien, de rien on s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visages en visages. Ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on oublie. Rien du tout, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, colliers de femmes pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire. Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien. On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
Dans sa République, Platon fait dire à Socrate le fameux mythe de la caverne. On sait que l'auteur s'est inspiré d'un manuscrit livré par Philolaos de Crotone, l'un des ultimes pythagoriciens. Pythagore avait lui-même été initié par Phérécide de Syros, le sage qui avait pour habitude d'enseigner dans une caverne. Phérécide se souvenait du jour où il avait découvert sa grotte. Un large rayon de soleil avait balayé la paroi rocheuse, un éclat blanc créé par les divinités de l'air sur le mouvement des nuées. Il avait vu la faille et songé à Cérès, descendue aux enfers chercher sa fille par la caverne du monde. À Zeus caché par Rhea dans la pierre pour le protéger de la voracité de Cronos, aux antres des cyclopes, au ventre des mers et à la demeure des dieux. Il s'imagina l'enfant élevé et choyé par Chiron le sage et doux centaure au creux des rochers. Il se laissa apprivoiser. Aujourd'hui, il pouvait dire aux jeunes de sa communauté, il y a des recoins, des fosses, des niches, des portes secrètes par où vont et viennent les âmes. Toute chose gouvernée par l'eau. Écouter la pierre, c'était ralentir et se tenir dans sa lenteur extrême, saisir son mouvement et sa respiration, dénicher cet autre temps où le repos est un feu saisissant de vie. Alors qu'il égrenait ses réminiscences, deux garçons arrivèrent en courant. Dans la plaine, on avait lapidé un innocent, un homme qu'il connaissait. Le sage remercia les enfants d'avoir apporté la nouvelle et rentra en lui-même. Phérécide s'assit dans sa grotte et observa le feu qui crépitait. Il songeait aux hommes qui croient tout savoir mais qui dorment, inconscients et craintifs. Des pantins accrochés à leurs illusions et qui jugent en projetant leur peur sur les autres. Les mots manquaient. Il avait eu besoin de regagner son antre de loup. Et tandis qu'il retrouvait grâce à la pierre et au feu l'harmonie du foyer, il entendit la voix de son démon, le génie familier de la caverne. « Regarde-moi tout entière, tu comprendras le drame que vit l'humanité. Imagine des captifs ici, le dos vers le jour. Ils vivent là, depuis l'enfance en bas, parmi les autres ligotés. Ils ne peuvent pas tourner la tête, la lueur du feu est aussi derrière eux, au-delà de cet amas de roches où des montreurs de tours portent des statues d'hommes, d'animaux, de bois, de pierre. Certains enchanteurs parlent, d'autres se taisent. » Quelle scène étrange. Pourtant réel, tes semblables ne voient que des ombres qui dansent au rythme du feu sur la paroi. Une scène dont ils ne connaissent que les reflets. Cette farce leur semble incontestable. Ne peuvent-ils débattre entre eux de ce qu'ils perçoivent? Ils comprennent seulement ce qu'ils saisissent. Imagine l'écho des voix qui leur parvient. Il a touché la paroi. Pour eux, seuls parlent les ombres. Comprennent-ils le vrai? Non. Ils n'entrevoient que le balai des silhouettes et des leurs. Leur esprit est enseveli sous des tonnes de pierres. Ils hallucinent. Si on les détachait, si on les guérissait de leur égarement. Alors ils se lèveraient, ils tourneraient la tête, ils feraient quelques pas face à la lumière. Leurs muscles endoloris les feraient souffrir, ils seraient éblouis. Toi, je te connais bien, tu leur dirais « Voyez, frères et sœurs, ce n'était que des leurres et des filouteries. » Et ils seraient perdus. Ils jureraient que les ombres étaient plus raisonnables. Ils te verraient tel un fou, dangereux, qui met leur vision du monde à terre. Mais leurs yeux, voix de la caverne, leurs yeux et la lumière. Elles seraient si fortes qu'ils battraient en retraite, empressés d'embrasser l'illusion. Ils n'auraient pas assez de souffle et de courage pour affronter leurs croyances, encore moins pour en adopter de meilleures. Et si on les arrachait de là avec vigueur, quitte à les rudoyer, à les traîner par la pente vers le haut jusqu'à la sortie, jusqu'à ce qu'enfin le soleil les inonde? Justement, tu l'as dit, les cas du jour seraient trop forts. Ils seraient noyés de lumière. J'ai compris. Ils ne verraient rien. Pas tout de suite. Il faudrait attendre. Ils percevraient des ombres et toutes sortes de reflets, les arbres à l'envers dans l'onde, puis peu à peu des forêts debout. Quand viendrait la nuit, ils verraient la lune et les étoiles. Au petit matin, le soleil tel qu'il est dans le ciel et non tel qu'il apparaît dans un lac. Ils comprendraient qu'il est la cause des jours, des saisons, du temps qui passe, qu'il gouverne le vrai jusque dans la pénombre où tous ils se leurraient. Et s'en souvenant, serait-il heureux d'avoir quitté l'obscurité? Je le pense. Et les honneurs, les louanges qu'ils s'attribuaient, leurs avis sur les choses, les privilèges qu'en tiraient les plus observateurs, les plus pressés, les plus habiles et les plus forts. Préférerait-il être libre des apparences et des mirages et vivre désormais en simple sujet du soleil? Je le crois. Ne pas revenir en arrière pour celui qui avance, n'est-ce pas vital? Mon ami, s'ils revenaient s'asseoir à leur place, ils auraient les yeux empoignés par l'obscurité aveuglante d'un soleil noir. Ils reprendraient la logorée des avis et des jugements à propos des ombres. Avant que leur cécité ne s'estompe et que leurs yeux s'habituent, qu'ils relativisent et se souviennent de la lumière, ils se mettraient nerveusement à rire face aux rêves cruels qu'ils ont faits à l'air libre et qui a fracassé leurs yeux. Ils s'entraideraient même pour s'attacher de nouveau. Égare à celui qui voudrait les détacher ou les guérir de leur égarement. S'il insistait, il le tuerait comme cet homme que tu aimais. Ils en seraient capables. Nul n'est affranchi des croyances néfastes que par lui-même. Pour oser sortir et voir le monde, il faut sauter dans la clarté sans se retourner et avoir appris de l'ombre. Voilà le drame que vit l'humanité. Caverne, je suis le monde visible, le feu qui danse et le soleil, le captif qui s'élève et contemple et l'âme consciente. Garde à l'esprit cette idée. Enseigne-la dans le lieu secret où la pierre parle. S'il naît un nouvel humain, ce sera dans la quiétude et la solitude de sa propre caverne. Un être qui se détache de la tromperie, se retourne et comprend. Un jour viendra où la compréhension s'épandra tel un feu purifiant. Tous entendront le chant vibrant des pierres. Alors ils pourront aller et venir entre ce qui se voit, ce qui se danse et ce qui est. Ils verront la nature comme ils se voient eux-mêmes, et illuminés par la conscience, ils éprouveront la joie d'exister.
vois des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillon. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Deux années avaient passé depuis que Fujihiko, ou garçon du mont Fuji, demeurait à Kyoto. Le jeune poète samouraï avait quitté sa région sur les conseils de son vieux maître pour parfaire ses dons de calligraphe et découvrir les techniques qui l'aideraient à trouver sa voie. Le pli de recommandation que le vieil homme avait rédigé lui avait ouvert la porte d'un atelier animé et silencieux. Il avait beaucoup appris, mais demeurait prudent sur ce que deviendrait son art. Il s'en retournait satisfait, ravi de retrouver les siens et le vieux maître. Pourtant, depuis qu'il avait pris la route, il n'avait de cesse de penser à ce coin de montagne qu'il avait traversé à l'aller. Profitant de son voyage, le maître lui avait demandé de porter des rouleaux dans un monastère où demeurait l'un de ses amis. C'est en le quittant, marchant sur un chemin bordé de saules, qu'il avait connu la sensation la plus étrange et la plus délicieuse de sa jeune vie. Alerté par la douceur et la fraîcheur inexplicables sur sa peau, il avait recherché de tous côtés sans comprendre d'où venait ce bonheur électrique qui lui faisait danser les poils des bras et chavirer le cœur. Quand les longues feuilles soyeuses et fines d'un jeune saule lui frôlèrent l'épaule, il eut le sentiment que les argentés le retenaient. Il vit que son tronc était entravé par une grosse pierre qu'on avait dû adosser et laisser là. Elle avait dû servir de reposoir pour quelques voyageurs et commençait à le blesser. Précautionneusement, il avait fait glisser la pierre et caressé le pied de l'arbre comme s'il calligraphiait. Tout en s'éloignant rêveur, il avait murmuré « Oh le saule, la caresse du vent, des abeilles sur la neige ». Fujihiko conservait la trace d'un songe reflété par la lune. Maintenant qu'il s'en retournait, il lui revenait un bonheur intemporel qui méritait le détour. Si l'hiver ne s'était pas annoncé, les premiers flocons accompagnaient son périple. Malgré le froid, il avança dans la blancheur. Il retrouva le passage qui serpentait vers le monastère et bifurqua vers la montagne tout en rassurant son cheval. La neige tombait fort. À vrai dire, il était perdu, ne se souvenait ni du temps écoulé, ni de la distance parcourue 2 ans plus tôt. Plus haut, il aperçut près d'un bosquet une masure inconnue. Il était temps, son cheval était épuisé. Il valait mieux se reposer et attendre, plutôt qu'errer sans repère. Il mit son cheval à l'abri dans la grange et frappa à la porte. Une vieille femme, au visage parcheminé de nervures et au large sourire, lui ouvrit. « Entrez vite, jeune samouraï, nous sommes honorés de votre visite. Ne restez pas dans le froid, venez vous réchauffer près du feu. » Fujihiko entra et aperçut une jeune fille et un vieillard à la mine aimable, assis près du feu de bambou qui crépitait joyeusement dans l'âtre. À peine était-il entré que les parents s'affairaient pour lui préparer un repas. La jeune fille se retira derrière la cloison opaline. Fujihiko resta sans voix. Non seulement elle était très belle, mais il venait d'éprouver le même trouble que celui qu'il avait ressenti sous la caresse du saule. « Jeune seigneur, dit le vieil homme, il neige à gros flocons et la nuit va tomber. Nous n'avons pas le confort, mais si tu acceptes notre humble hospitalité, nous serions plus rassurés de te savoir à l'abri. » Le voyageur fut d'autant plus prompt à accueillir l'invitation qu'il lui tardait de revoir la jeune beauté. Il remercia ses hôtes pour le bol de soupe et de riz qu'ils déposèrent devant lui et fut comblé quand elle réapparut, apprêtée pour lui servir du vin. Chez les lettrés de Kyoto, il n'avait jamais rencontré une personne d'un port aussi noble et d'une telle douceur. C'était grande magie de fille que d'apparaître princesse dans une robe usée et coiffée d'un délicieux chignon retenu par une simple cordelette. Ses gestes étaient si gracieux qu'il en fit à l'instant un poème. Ses bras flottent dans le vent, simple biche, elle court avec les saules. Excusez notre fille, elle n'a pas les manières, dit le vieux. Elle va pieds nus dans les torrents de la montagne. Elle sait mieux chanter que servir le vin. Le jeune homme répondit qu'au contraire, elle avait tout ce qui peut charmer le poète, à la fois tout de la nature et de la noblesse. En devisant, il apprit son nom, Ayane, bruit de la soie. Il fut troublé par sa voix qui évoquait tout ce qui jaillit au printemps. Hier, la caresse d'une ramille, aujourd'hui il galope, mon désir. Elle sourit en écoutant ses vers et termina enchantée. Sous la pierre qui brûle, elle est joyeuse, la fiancée. Tout alla très vite. Il en va ainsi quand amour, poésie, nature et noblesse vont de concert. La demande en mariage fut prononcée et les parents en furent tout ébahis. Puis il y eut le retour de Fujihiko et le consentement des siens, le mariage et 2 belles années de profonde tendresse. Mais un jour que les jeunes gens étaient dans leur maison, Ayane fut prise de vertige et très pâle elle déclara. Écoute-moi sans m'interrompre, le temps m'est compté. Tu sais au fond de toi-même que je ne suis pas humaine et que mon âme habite un saule, celui qu'avec tant de gentillesse tu as soulagé. Chez mes parents, des hommes sont en train de nous couper. Ma mère vient de s'écrouler dans un long craquement. Le tronc de mon père est presque entièrement scié. En ce moment même, mon père me parle et me dit de ne pas avoir peur. Oh combien j'ai aimé ma vie de femme. Je voudrais être capable de t'emporter. Fujihiko n'eut que le temps d'apposer un baiser sur ses mains fines et soyeuses. Plusieurs jours inconsolables, il partit enfin vers la montagne en pèlerinage, au lieu où il avait rencontré son aimé. Des 3 saules, il ne restait que des traces de coupe et la masure s'était envolée. Il hésita encore un instant à se laisser happer par la mélancolie des poètes et à couvrir sa vie entière de cahiers de pleurs versifiés. Puis un sourire serein se dessina sur ses lèvres. Il sut qu'il avait trouvé sa voie. Il ramassa une tige de saule à terre, dessina d'un geste assuré un mouvement sur le paysage rose du soir. Alors, tel le peintre chinois Wang Fo, qui s'évada du palais impérial à bord de la barque qu'il avait peinte sur un tableau, Fujihiko congédia les apparences du monde et l'illusion de la séparation.
d'âme et de corps. Tu le sais, je t'adore, mais je vais te dire une chose que tu sais pas. Je t'aime encore, oui, je t'aime encore, plus fort quand tu n'es pas là. La 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 la, quand tu n'es pas là, tu es partout là, 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 et puis là, et ici, oui, c'est ainsi, tu m'envahis, tu m'envahis quand tu t'en vas. Tu ne peux pas voir dans le grand lit noir, sur ta place vide, voir ma bouche avide. Tu ne peux pas voir quand tu n'es pas là, ton fantôme de drap dans mes bras. Alors règne, Marcia, Martienne, l'amour est toujours plus loin que l'amour. Oh, ma compagne, quand tu t'éloignes, j'aime ton éternel retour. C'est ma patrie d'âme et de corps. Tu le sais, je t'adore, mais je vais te dire une chose que tu sais pas.
Selon certains, Dryopée était une nymphe qui gardait les moutons sur le mont Œta et vivait en Thessalie avec les Hamadryades. D'après Ovide, elle était une jeune mère qui partageait le quotidien des femmes d'Eucalie. Tous s'accordent pour dire que sa beauté était sans pareille et qu'Apollon, le maître de Delphes, avait abusé d'elle avant qu'elle ne rejoigne les Hamadryades et n'épouse Andraemon. Apollon le Cytharède s'était transformé en tortue pour servir le jeu innocent des nymphes. Quand Dryopée l'accueillit sur son sein, il se changea en serpent, siffla pour éloigner les déesses et s'unit à elles. De cette union naquit Amphissos. Il existe plusieurs versions de l'histoire, mais elle fut, au dire de tous, changée en peuplier ou en porteuse de fleurs de lotus. Un jour, Dryopée allait avec son fils et sa sœur Iole, celle qui fut aimée d'Héraclès, pour tresser au bord du lac des guirlandes afin d'honorer les nymphes. Tout en portant Amphissos dans ses bras, elle aperçut un arbre couvert de fleurs de lotus. Tandis qu'elle en cueillait pour les offrir à l'enfant, des gouttes de sang perlèrent sur les tiges. L'arbre frissonna, il émit une sourde plainte. Dryopée et Iole ignoraient que la nymphe Lotis avait fui Priape, le dieu fertile au pénis toujours dressé, qu'elle s'était métamorphosée dans l'arbre, sans perdre ni sa nature ni son nom. Dryope était tétanisée par cet acte involontaire qui faisait souffrir l'une de celles qu'elle vénérait. Tout s'accéléra. À l'instant, ses pieds furent pris par le sol et liés par une racine. Terrifiée, elle tenta de bouger, mais sous le ventre, plus rien ne répondait. Sa peau prit la couleur de l'écorce jusqu'à l'aine, puis la taille. Elle essaya de tirer sur ses cheveux. Son beau visage était couvert de feuilles. Elle contempla son fils avec effroi, sentit durcir sa poitrine, son lait devenir sève. « Et dire que j'étais venue pour honorer les nymphes, » murmura-t-elle. Désolée, Iole essayait d'entraver la mutation fatale, priant les nymphes qu'on la prenne, elle, et qu'on épargne la mère et l'enfant. Dryope pleurait en silence. Le mari et le père arrivèrent, enlacèrent le tronc chaud et l'arrosèrent de larmes. Dryope tendit son bébé à Iole, commanda qu'on recherche une bonne nourrice. L'arbre à tête de femme énonça des mots d'amour et de sagesse, demanda qu'on raconte plus tard à son fils et à tous les enfants que sa mère, que les mères sont cachées dans les arbres. Comme la vie est précieuse, elle est ici, elle est encore là. Une simple fleur qu'on coupe, même sans vouloir lui nuire, peut blesser une nymphe. La voix de Dryope devint bruissement de feuilles et elle prophétisa encore pour les temps à venir. Ne coupez rien sans demander, sans être sûr de ne pas commettre l'irréparable. Soyez attentifs aux êtres qui prennent comme nous les vêtements de ce monde. Aimez fort la vie sous toutes ses formes. Elle est ici et là, encore dans ce chêne, dans ce ruisseau ou dans ce chien. Ses yeux furent deux fentes, sa tête disparut dans l'aubier. En révérence à Lotis, elle porta elle aussi des lotus. Dryope, son nom qui veut dire oiseau-pic, semblait prémonitoire. Le vent qui connaissait Iole se leva. Et les bras-branches de celle qui fut Dryope s'agitèrent dans le soir. À force de vivre au milieu des biches et des bois, le vieux de la nature s'était changé en cerf. Il avait gardé sa tête et sa barbe d'homme, sa coiffure de chêne. Homme, arbre et bête. On finit toujours par ressembler à ceux que l'on aime. Jeune, il avait trouvé la clairière, là où les animaux et les arbres tenaient leurs conseils. C'était la première fois depuis que le monde avait basculé qu'un humain était admis dans le cercle des gardiens. Il avait cheminé entre ville et forêt, essayé d'être pour les uns et les autres, civilisés et sauvages, le germe d'une nouvelle alliance. Si les loups et si les cèdres l'aimaient, beaucoup d'hommes le tenaient pour un naïf qui tournait le dos au progrès. Les sangliers lui avaient appris l'ancien langage. Quand il s'adressait aux hommes, il avait dans sa voix le chant du merle et le bruissement de l'eau, de l'ombre et des feuillages. On y devinait le silence du ciel et des grottes, la force pure de la lune et toutes ces choses qui finissent par faire peur à ceux qui se claquent mûrs dans leur maison. Voyant la ville se rapprocher chaque jour, la terre lacérée par des pattes d'acier, il avait fini par ne plus dépasser la lisière des mondes. Il passait de longues heures à scruter les nuages pour déceler les agitations qui mangent la vie. Il savait que beaucoup d'humains souffraient de voir la nature malmenée, mais leur façon de vivre était sans appel. Tandis qu'il cherchait le moyen d'endiguer la peur et de réveiller le chant des hommes, ses pieds, ses mains devinrent sabots, ses bras, ses jambes se couvrirent de peau, ses cheveux se firent brindilles et branches. Sa voix gonfla, sortit de la bouche des arbres et des rochers, la voix des arbres et des pierres qui parlent. La nature n'accuse pas l'homme, elle l'attend. Ce jour-là, un grondement fit vibrer la dernière colline qui séparait les mondes. Il avait redouté cet instant, celui où rien n'arrêterait les mangeurs de vie, ces frères humains qui broyaient les arbres et les nids, souillaient la mer et la montagne, fouillant la terre, jamais rassasiés, sans égard envers la vie sauvage et l'avenir de leurs enfants. Il avait réfléchi à ce moment sans savoir quoi faire. Pourtant, il vit clairement ce qu'il devait oser. De la clairière, il appela longuement toutes les vies qui rampent, courent, poussent et volent. Il rameuta les sources, le vent, les fleurs, les vers et les rossignols. Il exhorta le meilleur de l'homme, fit des élans magnifiques un long collier. Sa plainte s'éleva, chacun l'entendit, qu'il fût sapin, écureuil, taupe, biche, enfant ou noisetier. Un long murmure répondit. Faible au début, il s'élargit, bourdonna, fit vibrer l'air des mélodies. L'homme cerf récoltait tous les chants, ceux des arbres et des animaux, des fleurs et des améthystes des sources, ceux des humains qui s'apaisent et rêvent. Il en composa un bouquet, mélange harmonieux, tissé de milliards de sons. L'homme cerf fit face aux envahisseurs, sa voix s'éleva, grave et douce, donnant à son chant des chants la puissance inouïe d'un conte. Puis elle retomba en pluie sur les conducteurs des montures d'acier, les secouant fortement, bouleversant leur réalité. Les moteurs des machines s'arrêtèrent. Hommes, femmes et enfants descendirent des collines et des engins. Ils sortaient du long sommeil, découvraient la forêt, les oiseaux, l'herbe et le ciel. Ils s'éveillaient sans retenir leurs larmes ni leurs rires, délivrés. Ils ajoutèrent leur voix. Elles s'élevèrent des bouches assoiffées, effaçant les peurs, libérant des myriades de papillons. Quand ils virent l'homme cerf et des visages humains se dessiner à la cime des arbres, leurs cheveux devinrent brindilles, leurs mains sabots, leurs bras des ailes. Au loin, leurs maisons furent des nids, leurs villes s'ouvrirent aux étoiles. Le concert avait brisé leurs armures. La forêt s'avança, bras et branches d'arbres et d'hommes s'étreignirent. Renards, tilleuls, enfants jouaient déjà entre eux, formant des mots et créant des poèmes. Ainsi finit ce dernier conte des sages gardiens de la terre. Les oiseaux de la source et le oiseau phénix le conservaient peut-être compté maintenant. Puissent-ils contribuer à nous réveiller tout à fait ? La source coule sur ton cœur comme sur une pierre de la forêt, et elle va polir ton cœur dans la juste forme des cœurs. Et c'est un fruit vivant que tu vas maintenant porter dans ta poitrine. Et le jus de ce fruit viendra sur tes lèvres, et d'entre tes lèvres coulera une source où l'on viendra boire.
down and watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves upon the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts that were not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows upon the smoke, as she moves among the shadows, as she moves near with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walks across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me.
Vous étiez dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, sur Fréquence Mistral, www.fréquencemistral.com. Vous avez entendu ce soir le hurlement du loup, le cri de la chouette, le chant du coucou, des bruits de pas. Vous avez entendu des musiques de Mozart, Léo Ferré, Lucky Dubé, Jeanne Moreau, Jacques Brel, Litz, Dvorak, Midnight Oil, Nick Cave. Et on vous dit au revoir sur la musique de notre générique de fin de Sakamoto. Vous avez entendu les voix de nos invités, John Bellow, ainsi que Régis qui est venu nous présenter un texte de son recueil Gaz Moutarde. Notre ami Régis, voyageur devant l'éternel, voyageur d'ici et d'ailleurs, qui est invité quand il veut, pour revenir nous faire partager ses écrits et ses lectures. Merci beaucoup à toi, Régis.
Merci à vous de m'avoir invité, d'autant plus que j'apprends que c'est la dernière émission de l'année, et puis on a eu le champagne, donc le saumon, les huîtres, donc vraiment c'est très agréable. Oui, je vais en reprendre un petit peu, James, du champagne.
Avec plaisir, surtout que c'est payé par la radio. Donc,
c'est payé par la radio, oui. C'est sympa, et j'accepte aussi la caisse aussi de champagne.
Ensuite, vous avez entendu les textes lus par Nathalie Vautier.
Bonsoir.
et qui vous a lu les contes des sages de la terre de Patrick Fishman aux éditions du Seuil. Les lectures faites par John Bello, la lecture faite par John Bello est un texte qui est tiré des contes Igbo de la Tortue, qui vient du Nigeria, de Françoise Ugochukwu. Pour ma part, je vous ai fait partager des textes d'Henri Michaud, L'espace du dedans, et à la technique, monsieur Christophe Becro, qui nous sert si bien. La prochaine émission, c'est le jeudi 26 janvier 2017. D'ici là, bon boudin et bon début d'année. Prochain rendez-vous, jeudi 26 janvier. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. T'as toujours le choix, soit de rester, de laisser rentrer la lumière ou de laisser les volets fermés. En ce qui me concerne, je me sens un peu fatigué, donc je vais aller les fermer. Bonsoir.